C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air. Ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Malnutrition infantile dans les camps de réfugiés soudanais au Tchad. Peu de Guinéens sont assurés et les conséquences sont parfois lourdes. Rubrique santé, campagne de sensibilisation contre la stigmatisation des déficients visuels au Cameroun. Le Togo veut améliorer sa fonction publique. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Au Tchad, les cas de malnutrition qui affectent les enfants dans les camps de réfugiés soudanais inquiètent les organisations humanitaires. Notre correspondant André Komajingar s'est rendu dans les camps de Djabal et Goza Amir. Écoutons son reportage.
Les structures sanitaires des camps de Djabal et de Gouzamir dans la région du Sila sont débordées par des cas de malnutrition. Bien que le personnel soignant sensibilise tous les jours la population pour le bien-être des enfants, les parents se préoccupent beaucoup plus de la récolte des champs que le suivi régulier de soins de santé de leur progéniture. Selon le superviseur du centre de santé de Djabal, Barnabas Hamza, la malnutrition est causée par plusieurs facteurs, parmi lesquels le manque d'une alimentation équilibrée.
S'il y a manque des apports en calories dans l'alimentation de l'enfant, cela peut entraîner la malnutrition chez l'enfant. D'autres maladies également peuvent entraîner la malnutrition. Nous avons des tableaux ici qui nous montrent comment l'enfant doit avoir tous ses aliments pour avoir d'énergie, pour subvenir à ses besoins. S'il y a manquement de ces produits, l'enfant est appelé à entrer dans la malnutrition.
Réaction du directeur adjoint du PAM, bureau du Tchad, Issa Sanogo.
Les raisons de la malnutrition doivent être creusées un peu plus pour bien situer la raison. Une des raisons, quand on sort en période de post-soudure et qu'on entre en période de récolte, il se peut qu'il y ait des cas d'abandon, des screenings au niveau des centres de santé qui peuvent également avoir un impact sur la hausse de la malnutrition. Il se peut que les raisons soient difficiles à identifier et il est bon qu'on sache ce qui se passe.
C'est dans cette condition peu enviable dans les camps, surtout pour les enfants de 0 à 59 mois, que l'OSR et ses partenaires entendent revoir en baisse l'assistance alimentaire. Ce qui veut dire qu'en 2017, l'appui sera beaucoup plus orienté dans les initiatives personnelles de réfugiés pour leur prise en charge effective et non continuer à les donner à manger. Car, selon les donateurs, assister les réfugiés pendant 13 ans, c'est trop. Josué Antonio Kanandula est le représentant du SR au Tchad.
Le coupon, ça veut dire, ça nous permet de donner un peu plus que au cas où nous devons prendre en charge tout le transport et toute la distribution. Ça donne l'opportunité à une autre famille d'opter ne pas acheter la nourriture, mais acheter d'autres choses avec le même argent. Que les gens arrêtent d'être réfugiés, ils repartent dans leur pays.
Dans les deux camps, le pourcentage des enfants malnutris des deux derniers mois est têtu. Environ 600% des enfants malnutris aigus modérés et 400% des enfants malnutris aigus sévères sont enregistrés. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena. 4000 accidents de la circulation sont enregistrés par an en moyenne en Guinée. Des accidents qui causent parfois des morts et des dégâts matériels importants. Mais la majorité des personnes impliquées dans ces accidents sont obligées de prendre en charge des frais de réparation faute d'assurance. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Il n'est pas rare de voir des victimes d'accidents de la route dans les hôpitaux et autres centres de santé en Guinée. Ils sont plus de 1400 blessés graves enregistrés par an, mais des malades dont la majorité n'est pas assurée. Le centre Mère et Enfant traite parfois des malades avec ses propres moyens. Mamadou Debari, médecin.
On rencontre des difficultés parce que parmi ces patients, il y a beaucoup d'indigents qui ne peuvent pas faire face aux frais des prestations. Ils sont obligés d'utiliser les maigres moyens de la structure pour traiter ces patients.
Les personnes non assurées devraient pourtant être prises en charge par un fonds de garantie automobile. Mais cette structure mise en place par l'État guinéen et dont la caisse est alimentée par les sociétés d'assurance est peu connue du grand public pour Ibrahima Keita, ex-secrétaire général de l'Association professionnelle des assureurs de Guinée. Cette défiance s'explique.
Quand on parle par exemple de l'assurance vie, la Guinée est un pays de musulmans à 85%. Beaucoup sont réticents sociologiquement et culturellement à l'assurance vie. Et aussi le revenu fait que certains Guinéens ne s'intéressent pas à l'assurance. Quand vous prenez l'assurance automobile par exemple en Guinée, sur 100 véhicules qui circulent, vous avez à peine 25-30 véhicules qui sont assurés. Donc, si le taux de pénétration est faible, la masse des assurés est faible, cela fera que la trésorerie des sociétés d'assurance sera elle aussi faible.
L'assurance automobile est obligatoire en Guinée, mais elle peine à être effective.
Les lois de notre pays en matière d'assurance ne sont pas respectées. Il y a des lois qui obligent les usagers de la route à prendre l'assurance automobile. Il y a une loi aussi qui oblige l'assurance des marchandises à l'importation. Mais ça ne se fait pas sur le marché. Les opérateurs économiques n'assurent pas leurs marchandises à l'importation. Il y a aussi une loi qui oblige les entreprises minières, les entreprises de travaux publics et de construction, etc. Bref, toutes les grandes entreprises à souscrire des contrats d'assurance en Guinée parce que les risques sont localisés en Guinée.
La Guinée a un nouveau code d'assurance. C'est le texte de 1995 qui a été révisé et adopté par l'Assemblée nationale. Il devrait permettre au secteur des assurances de participer plus activement au développement du pays. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou. Au Mali, 25 millions de dollars ont été mobilisés pour le DDR, le Programme National de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion, au cours d'une rencontre entre le gouvernement et ses partenaires. Comme nous le rappelle notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, le DDR constitue une phase capitale dans la mise en application de l'accord d'Alger.
Le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, ou DDR, c'est par là que toute l'application de l'accord d'Alger devrait commencer, pour éviter les réunions interminables entre le gouvernement et les groupes armés. Zabi Ouldou Sid Mohamed, président de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion.
Ce document prévoit à peu près, pour le coup du programme de la réinsertion des ex-combattants, un budget d'environ 50 millions de dollars. Et cette table ronde qui a permis de mobiliser déjà 50% de ces ressources. C'est un programme qui va s'étaler sur 3 à 4 ans. L'État malien a participé à ces financements, donc jusqu'à concurrence de 10 milliards, et le reste, c'est les partenaires.
Les DDR concernent 1000 combattants. Des groupes armés. Chaque combattant sera cantonné dans un premier temps pendant 45 jours sur les 8 sites de cantonnement identifiés.
Les responsables des différents mouvements armés vont nous donner les listes de leurs combattants armés et par région. Les sites qui sont situés dans la région vont accueillir ces combattants. Le combattant fera une interview avec des choix. S'il veut aller dans le corps habillé, des choix s'il veut aller à la fonction publique ou des choix ou la réinsertion dans sa communauté d'origine. Et une fois que cela est fait, nous aurons une banque de données claire, il aura une carte de démobilisé.
Le DDR ne sera pas une exclusivité pour les seuls combattants des groupes armés de la CMA et plateforme. Il concerne tous les groupes armés des différentes régions du Mali, précise Zabi Ouldou Sidi Mohamed.
Le processus, il est inclusif par nature. Tu n'as pas besoin forcément de passer par plateforme ou CMA. S'il y a des groupes armés, le désarmement, c'est la responsabilité de l'État malien. Donc sur ça, il n'y a aucune ambiguïté. Ceux-ci ont leurs combattants et les autres, c'est d'autres groupes armés. Ils peuvent être éligibles. Tant que c'est des Maliens, ils sont éligibles au programme. Ils vont passer aussi par le même processus. Nous n'allons pas nous enfermer dans les petites querelles plateforme SEMA.
Le programme prévoit également des projets pour aider les populations victimes de violences au nord comme partout au Mali.
Nous aurons un volet qui va aux ex-combattants, mais on aura un volet qui va aussi aux communautés victimes de la violence. Et parmi ces communautés victimes de la violence, nous avions par exemple l'association des veuves des victimes des conflits du nord. Maintenant, l'inclusivité toujours, les communautés aussi auront des projets de réinsertion parce que beaucoup de communautés ont été victimes de la violence et il faudrait que ces communautés aussi bénéficient du programme.
Une fois que le DDR fonctionne dans une localité, aucun autre groupe ne sera autorisé à faire des mouvements en dehors des patrouilles mixtes.
Parce que là, les règles seront claires. Puisque actuellement, vous avez tout le monde circule avec pavillon de mouvement et tu circules et on dit oui, il est de la SEMA, il est de la plateforme. Là, il n'y en a plus. Une fois que le désarmement est fait dans une zone, en tout cas, il n'y a plus d'excuses pour nos partenaires, les nationaux, l'aménagement et Berkane de laisser des convois comme ça circuler.
Le programme désarmement, démobilisation et réinsertion DDR est déjà en marche. Il se veut une mission de terrain et non de bureau. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Rubrique santé à présent pour nous intéresser à une campagne de sensibilisation contre la stigmatisation des déficients visuels qui a eu lieu au Cameroun. Il s'agit avant tout de sensibiliser les populations au respect des codes de la canne blanche, selon notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
When the visually impaired is moving, with his white cane,
Sam Lingam est au milieu de personnes aveugles comme un éclaireur. Dans la cité capitale, automobilistes et autres usagers de la voie publique suivent attentivement l'importance du respect de la canne
blanche.
Une initiative appréciée à sa juste valeur par Coco Bertin de l'Association de réhabilitation des personnes handicapées au Cameroun. Selon lui, cette solution en faveur du respect de la canne blanche est un outil de mobilisation contre les injustices envers les personnes aveugles. Coco Bertin en fait également partie.
La canne blanche, c'est simplement cette canne que tiennent les personnes non-voyantes pour faciliter leur déplacement. La canne blanche permet également à celui qui vient en face de reconnaître la personne non-voyante. Je dirais que la canne blanche, si je ne l'ai pas, je suis simplement comme un voyant à qui on a caché les yeux. C'est donc un outil indispensable pour le déplacement des personnes non-voyantes.
Parmi les curieux venus écouter ces messages figure Marie Mboza.
On ne sait pas beaucoup ce qu'ils veulent dire. On voit parfois la canne blanche levée en ville, surtout les chauffeurs sont trop pressés. Donc la canne est levée, on ne sait pas ce que ça veut dire, on passe.
Non loin d'elle, Timothée Wunze, électricien, écoute ses aveugles. Il déclare qu'il a appris qu'il faut respecter les déficients visuels.
Quand ils sont, par exemple, sur un trottoir et qu'ils veulent traverser la route sur un passage clouté, par exemple, ils soulèvent la canne. C'est juste pour dire que, bon, les voilà et qu'il faut peut-être s'arrêter pour pouvoir les permettre de traverser. Ou alors, quand ils sont nouveaux, n'est-ce pas, des passages d'eau, hein, il y a souvent des passages d'eau à côté de la route, ils frappent là-dessus. C'est juste pour dire, bon, qu'ils sont sûrement en train ou de monter sur le trottoir ou en train de continuer.
Face aux difficultés, Coco Bertin propose que le gouvernement camerounais introduisent la situation des déficients visuels comme une matière à part entière.
Cette campagne nous a conduit dans plusieurs églises de Yaoundé et de Bolova. Nous sommes allés dans les établissements scolaires. Pendant les levées de couleurs, les proviseurs nous accordent quelques minutes pour présenter les signes d'utilisation de la canne blanche. Nous nous organisons également à aller vers les auto-écoles pour leur faire connaître la canne blanche.
L'environnement camerounais n'est pas toujours favorable à l'intégration des déficients visuels. Moki, Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Cap sur le Togo, où s'est tenu mi-novembre un atelier autour du statut général de la fonction publique togolaise. L'idée générale étant d'avoir de meilleurs employés de la fonction publique. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le Togo veut aller vers une meilleure gestion de son administration publique. Pour ce faire, le pays a adopté en 2013 un nouveau statut général de la fonction publique mais il faudra attendre décembre 2015 pour que les tests d'application soient pris, pour pouvoir disposer d'une administration moderne qui répond aux normes contemporaines, le nouveau statut de la fonction publique a opté pour diverses innovations. Atissim Assi, le secrétaire général du ministère de la fonction publique, revient sur trois innovations majeures.
Nous allons vers deux types de personnel, c'est-à-dire les fonctionnaires d'une part et les contractuels de la fonction publique. Ça, c'est l'une des innovations pour mieux gérer le personnel et maîtriser également l'effectif et la masse salariale. L'autre aspect de l'innovation, instaurer une obligation de disponibilité des agents au poste, donc l'assiduité au travail et surtout de servir l'agent public et de mieux aussi assurer la qualité de la prestation de service. Et la révision de la grille salariale qui constitue également un début et qui permettra aussi d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents.
Ce nouveau statut de la fonction publique fait l'objet d'une campagne de vulgarisation auprès des fonctionnaires et autres agents publics. Aounon Komlan Mensan, directeur général de la fonction publique.
Le Togo a opté pour une fonction publique de carrière. Maintenant, le nouveau statut vient coupler ce modèle de carrière au modèle d'emploi. Donc, ça change un peu les donnes et il faut que nous internalisons les nouvelles dispositions, que chacun puisse se l'approprier en vue de mieux l'appliquer.
La vulgarisation de ce document qui fonde les principes de base de la fonction publique au Togo est plus qu'indispensable. Eloi Komlan Mwosan, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, une cite.
Il faut que chaque fonctionnaire de l'État puisse savoir ce qu'il y a dans ce test. Puisque c'est ce document qui organise la fonction publique. Il y a les avantages qui sont là, il y a les sanctions qui sont là. Donc si vous ne connaissez pas le contenu, vous risquez à un moment donné de tomber sous le coup de sanctions parce que vous aurez fauté.
L'une des plus grandes innovations de ce nouveau statut est le relèvement de l'âge plafond d'entrée à la fonction publique qui passe de 35 à 40 ans. Une disposition pleine d'espoir, à en croire ces Togolais.
Je suis d'avis que le gouvernement repousse le plafond d'âge au concours à 40 ans au lieu de 35 ans. D'autant plus que les concours sont un peu rares dans ces dernières années. C'est une bonne chose à mon avis.
Les 5 ans qui ont été ajoutés est une marge de sécurité pour tout citoyen togolais, pour qu'il puisse avoir accès au moins au travail, à la fonction publique.
Il est ajouté que l'e-gouvernement fait partie des projets qu'exécute le gouvernement togolais pour moderniser son administration, notamment dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Kailosson Lomé, VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel, sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le groupe congolais-canadien Der Denizen qui a sorti Now Here, un nouvel album en novembre dernier, dont est tiré ce morceau, Monster Tamer. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Come out from my flesh again.